Nous allons commencer aujourd'hui le traité sur le péché, donc on trouve dans la prima seconde, première partie, la deuxième partie de la somme, des questions 71 à 89. C'est certainement un des traités les plus importants de la somme, surtout pour obtenir ce qu'on appelle l'esprit d'Église. Elle est importante dans tous les domaines, mais surtout dans ce domaine-là, domaine du péché, de penser tel que l'Église a toujours pensé. Bien se garder de moderniser, d'adapter, d'utiliser des principes nouveaux pour juger ce qu'est le péché. L'Église a déjà fait pour nous. Il faut tout simplement se mouler dans ce que l'Église catholique a toujours fait. Je crois que le point le plus important dans ce traité, c'est que saint Thomas d'Aquin explique, et ceci est capital dans le monde moderne, contre les idées du monde moderne plus exactement, saint Thomas d'Aquin va expliquer que tout ce qui va contre la nature de l'homme est ipso facto péché. Voilà ce qu'il dit, le bien de l'homme est de se conformer à la raison, son mal est de s'en écarter. Nous avons été plus ou moins tous contaminés par les idées modernes et dans tous les médias, la télévision, la radio, Internet, toutes ces choses-là, on nous rabâche les oreilles à longueur de journée sur l'idée que l'homme est libre. L'homme étant libre, eh bien, il peut donc faire ce qu'il veut. Et donc, même s'il fait quelque chose qui va contre la nature de l'humanité, ce qu'on appelle des péchés contre nature, même si c'est contre nature, ça peut être tout à fait acceptable sur le plan moral. Eh bien, saint Thomas va justement nous remettre les idées en place dans la cervelle, les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit vulgairement, pour bien nous faire comprendre que le bon Dieu a donné à la nature humaine des règles, un mode d'emploi en quelque sorte. Il y a de part et d'autre de la route que l'homme doit suivre, des barrières à ne pas franchir. Évidemment, ce sont des choses qui ne passent plus dans le monde moderne parce que l'idée de liberté a tellement fait de dégâts, même parfois chez nos fidèles, que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'une chose puisse être interdite, puisse être interdite. Et constamment, les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, on fait ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Non, nous ne sommes pas libres. L'homme n'est pas libre de faire ce qu'on veut. La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. La liberté consiste simplement à choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés. Or, cette fin est imposée à l'homme. Que ça vous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, Dieu existe, l'homme a une âme et l'homme a une âme à sauver. Et pour pouvoir sauver son âme, que ça lui plaise ou non, il doit suivre le mode d'emploi donné par son Créateur. Et ce mode d'emploi donné par le Créateur de l'homme, c'est tout simplement la loi des 10 commandements de Dieu. Elle est valable pour tout le monde, catholique ou non, quelles que soient nos convictions philosophiques ou convictions religieuses. La loi naturelle est là. Alors c'est donc très important dans ce domaine-là d'avoir des idées justes. Ça permet de rattraper bien des bêtises. Il faut insister sur ce point de la foi catholique parce que sinon on peut avoir de grosses surprises. Nous connaissons tous des drames dans bien des familles. D'enfants ou de jeunes hommes, de jeunes femmes, de bonnes familles qui ont fini par à cause de la corruption de leur nature, la corruption de leurs amis, par des mauvaises fréquentations, etc., qu'on finit par accepter des idées complètement farfelues, et puis avec des idées non seulement farfelues, mais des idées qui mènent en enfer, tout simplement. Quand quelqu'un vous dit « il n'y a pas de péché contre nature, j'ai le droit d'être un sodomite si je veux ou de faire un avortement si je le veux, parce que je suis libre de faire ce que je veux », ce sont des idées non seulement dangereuses, non seulement fausses, ce sont des idées qui mènent en enfer, tout simplement. Alors, donc ce traité commence la question 71 jusqu'à la question 89 de la prima seconde. Donc vous le trouvez sur le polycopier à la page 51, en bas de la page 51. Donc, on part de présupposés. Premier présupposé, l'homme a été créé par Dieu. Puisque l'homme a été créé par Dieu, l'homme est donc dans un état de dépendance. Il dépend d'un créateur. Puisque nous sommes dans un rapport de créature à créateur, le créateur a des droits et la créature a des devoirs, c'est logique. Donc encore une fois, le créateur a le droit de donner des règles à suivre, un mode d'emploi à ses créatures. Donc nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons avec notre intelligence, avec notre volonté, avec nos passions, avec notre cœur. Bon. Nous avons tous une âme, deuxième point très important. Nous avons tous une âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont tous une âme, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le suivre. On est capable de connaître Dieu par l'intelligence, on est capable de suivre le bon Dieu par la volonté, avec la grâce du bon Dieu, bien sûr. Et même de façon naturelle, un homme peut connaître Dieu même s'il n'a pas la foi. Un homme peut connaître le bon Dieu même s'il vit dans le péché mortel. Pourquoi? Parce que il a une intelligence dont l'objet formel est le vrai. Donc, la conclusion, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec notre âme. Et notre âme peut être en bonne santé, notre âme peut être en mauvaise santé. Une âme qui est en mauvaise santé, c'est une âme qui vit dans le péché, tout simplement. Vous avez cette phrase de saint Thomas qui est déjà très belle, à la page 51 sur le polygopier, juste sous le titre Le péché, la vertu est la santé de l'âme. Donc le vice est une maladie de l'âme. Évidemment, quand dans le monde moderne, on dit que le vice, le péché sont des maladies spirituelles, les gens ne comprennent plus rien. Et je dirais presque, sont choqués. Eh bien, lorsque nous avons une maladie physique, eh bien, nous avons le devoir d'aller voir un médecin pour soigner notre maladie physique, surtout si cette maladie physique peut entraîner la mort. De la même façon, lorsque nous avons une maladie spirituelle, surtout si cette maladie spirituelle conduit à la mort spirituelle, c'est le cas du péché grave, nous avons le devoir grave, bien sûr, nous aussi, de nous faire soigner spirituellement en utilisant les sacrements, en utilisant la Sainte Messe, en utilisant tous les moyens que le bon Dieu met à notre disposition pour nous aider à aller au ciel. Alors, voilà ce que dit Saint Augustin. Saint Augustin dit que le vice rend l'âme humaine mauvaise au lieu que la vertu la rend bonne. On peut traduire d'une autre façon que le vice va donner une mauvaise odeur à l'âme, alors qu'au contraire, la vertu va donner une bonne odeur à l'âme, un parfum, si vous voulez, suave, qui va sortir d'une âme qui est en état de grâce. Il y avait des saints, il y en a plusieurs. Je ne peux pas citer de nom actuellement, ça ne me revient pas à l'esprit, mais plusieurs saints avaient reçu cette grâce du bon Dieu. Quand ils parlaient avec les gens, ils savaient d'entrée si ces hommes à qui ils parlaient étaient en état de grâce ou n'étaient pas en état de grâce. Et ils expliquaient que lorsqu'ils étaient devant des hommes qui vivaient dans le péché mortel jusqu'au cou, eh bien de ces hommes, de ces natures humaines empêtrées dans le péché jusqu'au cou, sortait une odeur nauséabonde que ces saints ressentaient. Même si les gens qui étaient autour d'eux ne sentaient rien du tout. De la même façon, disait-il, lorsqu'ils avaient devant eux des âmes toutes belles, des âmes qui vivaient habituellement en état de grâce, eh bien de ces âmes en état de grâce ressortait une odeur d'une suavité extraordinaire, comme un parfum de rose extraordinaire, qui indiquait justement à ces saints que ces personnes en face d'eux, à laquelle ils parlaient, étaient en état de grâce. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une disposition, en quelque sorte, dans la vertu, il y a une disposition qui convient à la nature même de l'homme. Une certaine bonté qui ressort de cette disposition. Donc l'homme sait au fond de lui-même, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, quand il veut commettre quelque chose de mauvais, il sait qu'il n'a pas le droit de faire cela. Qu'on appelle la loi naturelle, et cette loi naturelle ne peut pas être détruite. Lorsque, par exemple, prenons quelque chose de tout simple, lorsque un enfant de 5 ans veut prendre un bonbon dans la boîte à bonbons, alors qu'il n'a pas l'autorisation de sa maman pour le faire, instinctivement, il va le faire quand il n'y a personne. Quand sa maman n'est pas là, il monte sur le tabouret pour pouvoir atteindre la boîte de bonbons et se servir. Bon. Et cet enfant, au fond de lui-même, sait très bien qu'il fait quelque chose de mauvais. Lorsque un homme vit dans le vice mortel, par exemple, de la sodomie, eh bien, il sait très bien au fond de lui-même qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il a une nature humaine que la sodomie ne va pas détruire. C'est la même chose pour toute une série d'autres péchés. Par exemple, le péché d'avortement, c'est la même chose. Une femme, même non catholique, sait très bien au fond d'elle-même, quand elle tue son enfant par avortement, elle sait très bien qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Même si devant les autres personnes à qui elle parle, elle va prétendre que le fait qu'elle soit enceinte n'a rien à voir avec les enfants, ou c'est qu'un bout de chair dans son sein qui correspond pratiquement à un cheveu ou un ongle qui pousse et qu'elle peut donc s'en débarrasser, même si elle raconte des imbécilités de ce genre, au fond d'elle-même, elle sait très bien qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Vous voyez pourquoi? Parce que la nature humaine n'est pas détruite par le péché. La loi naturelle demeure. Même un pécheur qui vit dans le péché jusqu'au cou garde une intelligence. Et donc l'intelligence, dont l'objet formel est le vrai, lui indique très bien la direction qu'il doit suivre. Donc, saint Augustin va dire qu'il faut appeler vice tout ce qui fait défaut à la perfection même de la nature. Ce qu'il dit exactement, donc, appelé vice, disait très bien le grand docteur cité plus haut, c'est-à-dire Saint-Augustin dont il s'agit. Eh bien, appelé vice, tout ce qui fait défaut à la perfection de la nature. Donc, le vice, c'est un mot qui va servir à désigner une mauvaise disposition des êtres par rapport à ce qui leur convient, à ce qui convient à leur nature. Donc, n'oubliez pas que la vertu est un habitus. Bon, eh bien, le vice va ipso facto, par définition même, aller contre l'habitus de la vertu. Donc tout vice, quel qu'il soit, tout péché même, quel qu'il soit, mais surtout le vice, encore plus que le péché étant un acte isolé, le vice est une tendance générale qui rentre en nous par la multiplication des péchés. Tout vice est contre nature, par cela même qu'il est vice et contre nature. Alors ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aujourd'hui, plus que jamais, surtout à nos adolescents, le vice est contre la nature de l'homme. Et donc tout ce qui va contre la nature de l'homme, sur le plan moral, est ipso facto quelque chose de vicieux, donc quelque chose de pécamineux, donc quelque chose de condamné par Dieu. Alors, attention, il peut y avoir des habitudes vicieuses, ça c'est aussi important à expliquer. Il peut y avoir des habitudes vicieuses qui sont rentrées dans une âme, mais si la personne refuse de traduire cette habitude en acte, eh bien, il n'y a pas de péché à partir du moment où on lutte contre cette habitude vicieuse. Vous avez des gens, par exemple, qui ont malheureusement pris l'habitude de boire. Ils ont le vice de boire, ils ont le vice de la boisson en eux, mais ils luttent de toutes leurs forces pour éviter les fréquentations de gens qui vont les pousser à offenser le bon Dieu en buvant trop, etc. Ils font très attention à leur fréquentation, ils font très attention de ne pas garder d'alcool chez eux, par exemple. Eh bien, ils sont en état de grâce de ce côté-là. L'habitude mauvaise est plus coupable que l'acte vicieux. Cependant, c'est une erreur. On punit avec justice quelqu'un pour un acte vicieux, on ne punit personne pour une habitude vicieuse qui ne se traduit pas en acte. Preuve que l'acte vicieux, le péché, est pire que l'habitude vicieuse appelée vice. Bon. Quelqu'un peut avoir déjà une nature corrompue par le péché en lui, mais il peut, dans certains cas, avec la grâce du bon Dieu, l'aide des sacrements, surtout lutter contre ça. J'ai connu, par exemple, aux États-Unis, où c'est malheureusement un vice extrêmement répandu, j'ai connu parfois, dans plusieurs cas, des jeunes qui avaient malheureusement des tentations contre nature au niveau des rapports entre hommes et femmes. Et ils savaient très bien qu'ils étaient attirés par les autres hommes, ils savaient très bien que c'était quelque chose de pécamineux, ils se confessaient très souvent pour lutter contre les tentations, ils avaient un grand soin, portaient un grand soin à éviter toute occasion prochaine de péché. Eh bien, ces gens-là vivaient en état de grâce de ce côté-là. Alors, Le péché, dit saint Thomas, ne peut pas exister avec la vertu. Un péché unique, même si un péché unique ne détruit pas la vertu, cependant, le péché en tant que tel est incompatible avec la vertu. Il y a des distinctions à faire que saint Thomas d'Aquin va faire. On trouve ces distinctions dans la question 71 de la Prima Secundae, l'article numéro 4. Le péché peut-il exister avec la vertu? Alors, commencez par reprendre un petit peu dans tout ce que je viens de dire en suivant le texte même de saint Thomas pour vous aider à bien comprendre tout cela. Alors, qu'est-ce que nous dit saint Thomas d'Aquin? Donc, la vertu et la santé de l'âme. C'est page 51 sur le polycopier. Je reprends un petit peu ce que je viens de dire. Je donne un petit peu les principes généraux. Maintenant, je voudrais les préciser davantage. La vertu et la santé de l'âme, car le vice de toute chose, c'est bien de ne pas être dans les dispositions qui conviennent à notre nature. Lorsqu'on s'écarte de la loi naturelle, lorsqu'on s'écarte du mode d'emploi que le bon Dieu a donné à une âme, et bien évidemment, on tombe dans l'opposition à Dieu, on tombe dans le vice. Donc le péché, saint Thomas d'Aquin a une magnifique définition du péché. Je ne vais pas reprendre complètement la théologie sur le péché actuellement parce que j'ai déjà fait tout ça un petit peu dans le catéchisme sur le péché. Donc reportez-vous si nécessaire dans le site sur le site Dame Marie le péché, la notion de péché à la fin du cours de catéchisme du cours de catéchisme que vous trouvez sur le site Dame Marie. Donc, le vice de toute chose, c'est de ne pas être dans les dispositions qui conviennent à notre nature. Donc, l'homme a une nature et donc a le devoir de suivre sa nature. Et lorsque quelque chose va contre cette nature, contre une action, une opinion, une tendance est contre nature, l'homme a le devoir de lutter contre cette contre-nature, contre ce péché qui va contre la nature. Donc, le péché, dit saint Augustin, est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi de Dieu. Donc, saint Thomas d'Aquin a une magnifique définition de nouveau du péché. Il dit c'est aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Ça veut dire se détourner de Dieu pour se convertir, se tourner vers la créature. Donc il y a deux actes dans le péché grave. À la fois refuser notre Seigneur Jésus-Christ, se détourner de Dieu, aversio ad Deo. Donc on ouvre la porte de notre âme, on fait sortir le bon Dieu dehors. Ça c'est aversio ad Deo, cette aversion contre Dieu. Conversio ad creaturas et se tourner vers la créature par cette même porte que nous venons d'ouvrir pour faire sortir le bon Dieu de mon âme, je vais faire rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Donc, dans le péché grave, il y a pratiquement toujours la malice d'un péché d'idolâtrie. J'ai fait sortir le bon Dieu de mon âme et je fais rentrer un faux Dieu dans l'âme. Et je vais donner à ce faux Dieu l'adoration que je devrais donner qu'à Dieu seul. Donc, tout ce qui est contre l'ordre de la raison est proprement contre la nature de l'homme considéré en tant qu'homme. Et ce qui est selon la raison est selon la nature de l'homme en tant qu'homme. Donc, ce qui est selon la raison dans ce sens-là est vertueux. Ce qui va contre la raison de l'homme considéré en tant qu'homme est pécamineux. Donc, le péché est bien une maladie de l'âme. Alors, il faut faire très attention, encore une fois, j'insiste sur ce point-là parce que ça me semble très important, surtout pour les jeunes. Nous avons tous dans nos natures humaines des parties qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas bon. J'ai souvent dit dans ce cours qu'un des dogmes de foi les plus importants était certainement le dogme de foi sur le péché originel. Pourquoi? Parce que le monde moderne est convaincu que l'homme est bon, que l'homme naît bon et que c'est la société qu'il corrompt. Mais c'est faux. Ces idées de Rousseau et des encyclopédistes au milieu déjà du 18e siècle, bien ces encyclopédistes ont fait, notamment Diderot, et Rousseau aussi, ont fait un mal considérable en faisant croire aux gens que l'homme était bon. L'homme n'est pas bon parce qu'il a le péché originel. Les deux personnes qui sont bonnes par nature, c'est la très sainte Vierge Marie parce qu'elle n'a pas le péché originel étant Immaculée Conception, et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, bien sûr. Mais tous les autres hommes, tous, même les grands saints, ont quelque chose de mauvais en eux qui s'appelle le péché originel. Certes, le péché originel est enlevé par le sacrement de baptême, c'est bien pour cela que le bon Dieu a donné le baptême, mais le baptême ne va pas ôter complètement les blessures du péché originel. Rappelons-nous, n'oublions jamais que nous avons ces blessures dont on parlera plus tard, ces blessures du péché originel, nous avons l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence, donc toutes les puissances de notre âme sont atteintes par le péché. Quand on baptise un petit enfant, les parents ont un mal fou à comprendre ces choses-là. On voit un petit enfant tout mignon, tout charmant, qui sourit à tout le monde pendant son baptême. Et on ne réalise pas qu'avant le baptême, cet enfant est véritablement propriété du démon. Et qu'il faut que le baptême se fasse pour que le baptême coupe en quelque sorte ce cordon ombilical avec le démon qu'a le bébé pour le relier cette fois-ci à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Alors, un point qui me semble aussi très important, qui découle de ce que je viens de dire jusqu'à présent, donc c'est que tous les hommes ont en eux des mauvaises tendances. Donc l'homme a le devoir de lutter contre ces mauvaises tendances. Il peut y avoir des mauvaises tendances qui viennent du milieu familial, du milieu social, du milieu professionnel, du milieu étudiant, de tous les milieux dans lesquels un homme peut être. Eh bien, ces mauvaises tendances doivent être connues par chacun d'entre nous, on doit connaître nos mauvaises tendances, et surtout, nous avons le devoir grave de lutter contre ces mauvaises tendances. Il n'est pas question d'accepter des choses comme cela. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, les jeunes, et même les moins jeunes, tous les gens même de ma génération, bon, j'ai passé la soixantaine déjà, mais depuis un certain nombre d'années même, cette génération, la mienne, a été par exemple considérablement marquée par les fausses idées de Freud. Quand j'étais étudiant en université, eh bien, avant d'entrer au séminaire, eh bien, il y avait ces idées qui se répandaient partout. Hein. Qu'est-ce que dit Freud? Freud dit, avec ce système de psychanalyse, c'est ça, l'homme a des tendances en lui qu'il a toujours refoulées à cause de l'influence de l'Église, à cause de l'influence de Dieu, à cause de l'influence de la religion catholique. Donc la religion catholique va vous demander de lutter contre vos mauvaises tendances, en quelque sorte les cacher au fond de l'âme, essayer par tous les moyens même de les retirer de l'âme, et si on n'arrive pas à les retirer de l'âme de façon totale, au moins les mortifier, les garder toujours sous contrôle pour qu'elles ne prennent jamais le dessus. Freud, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire... Ces tendances que vous qualifiez de mauvaises ne sont pas mauvaises parce qu'elles font partie de votre nature humaine. Donc, puisqu'elles font partie de votre nature humaine, elles sont bonnes, puisque tout ce qui est naturel est bon, et donc il faut que ces tendances sortent. Il faut que ces tendances sortent, et donc à partir du moment où c'est une tendance que vous qualifiez de mauvaise qui est au fond de votre âme, au lieu de la cacher, au lieu de la mortifier, au lieu de la maintenir sous contrôle, au contraire, laissez-la sortir et donnez-lui la liberté complète. Et à partir du moment où vous suivrez ces tendances, vous trouverez la joie et la joie de vivre. Et pourquoi? Parce que Freud était fortement anti-chrétien c'est un juif, fortement anti-chrétien dans ses principes de psychanalyse, et ne comprenait pas justement qu'à cause du péché originel, l'homme avait effectivement des mauvaises tendances, et ces tendances étant mauvaises, l'homme a le devoir grave de ne pas y succomber, de ne pas les accepter. Il est évident que dans l'esprit de Freud faisait surtout allusion avec sa théorie de la libido, faisait surtout allusion justement à toutes ces tendances sexuelles qui, d'après lui, devraient être sorties de l'âme et à laquelle on devrait donner totale liberté. Alors qu'au contraire, un catholique sait qu'il a en lui des mauvaises tendances et qu'il doit lutter avec la grâce du bon Dieu contre ces mauvaises tendances. Mais on part donc le principe, tout ce qui est contre l'ordre de la raison est proprement contre la nature de l'homme considéré en tant qu'homme. Donc il n'est pas possible d'avoir quelque chose qui va contre la nature de l'homme et qui ne soit pas péché. Ce qui va contre la nature de l'homme, sur le plan moral je parle, est quelque chose qui est pécamineux. Le bien de l'homme, dit Saint Thomas, le bien de l'homme, il reprend Saint Augustin, le bien de l'homme est de se conformer à la raison et son mal est de s'en écarter. Donc la raison nous donne la direction à suivre. Si je refuse la raison, je refuse de suivre la direction qui m'est imposée par le bon Dieu. Donc, en conséquent, dit saint Thomas d'Aquin, la vertu humaine, vous avez tout ça, page 51 sur le polycopie en bas de la page. La vertu humaine est donc celle qui rend l'homme bon et qui rend l'œuvre de l'homme bonne et en conformité avec la nature humaine, dans la nature même, où elle est en harmonie avec la raison. Donc, lorsque nous faisons des choses, des actions, des pensées, des désirs qui sont en conformité avec la nature humaine, qui sont selon la nature de l'homme, elles sont donc en harmonie avec la raison. Dans ce cas-là, il n'y a pas péché. Au contraire, dit saint Thomas, le vice va contre la nature humaine dans la mesure où il est contre l'ordre de la raison. Donc on ne peut pas séparer l'ordre de la raison et la nature humaine. Qui dit ordre de raison dit nature humaine. Qui dit nature humaine dit ordre de la raison. Alors le problème, c'est que après le péché originel, le don préternaturel d'intégrité a disparu. Tout vient de là. Donc, par le péché originel, tous les dons préternaturels ont sauté. L'impassibilité, la science infuse, l'immortalité et l'intégrité, tout ça a sauté. Et l'intégrité était le don, justement, qui aidait Adam et Ève à rester constamment en état de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? J'ai souvent expliqué, donc j'insiste pas trop. C'est un ordre, tout simplement. L'ordre, c'est l'intégrité. L'ordre moral, c'est l'intégrité morale. Les passions qui sont soumises à la volonté à l'intelligence, l'intelligence à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le péché originel? Le péché originel va faire sauter, va faire disparaître les dons préternaturels, dont le don d'intégrité. L'ordre naturel qui régnait en Adam et Ève va donc sauter lui aussi. Et puisque cet ordre naturel a sauté, c'est le désordre qui s'installe. Donc, au lieu d'être dans le domaine de la révélation, pas dans le domaine de la révolution. C'est ça la révolution. La révolution, c'est un désordre, c'est rien d'autre. On prend la nature humaine, on la tord complètement et on sort une nature contre la nature humaine. Ce qu'on appelle le vice. Donc le vice est contre la nature humaine dans la mesure où il est contre l'ordre de la raison. Donc la vertu était, rappelez-vous, la vertu habitus operativus bonus, dit saint Thomas. La vertu, c'est une habitude d'opérer dans le bien. Donc la vertu est l'habitude qui se conforme à la raison comme naturellement. Alors le problème, c'est que, encore une fois, à cause du péché originel, il y a plus de gens à suivre les inclinations de la nature sensible qu'il y en a à suivre l'ordre de la raison. La vertu est l'habitude, pardon, car il se trouve, excusez-moi, il se trouve toujours plus de monde pour commencer une chose que pour la finir. Et naturellement, à cause du péché originel, encore une fois, les gens sont plus naturellement poussés à désobéir à la loi de Dieu qu'à lui obéir. C'est ça le problème. Alors, je reprends cette phrase de saint Thomas qui est très importante. La vertu est l'habitude qui se conforme à la raison comme naturellement. Il y a plus de gens à suivre les inclinations de la nature sensible qu'il y en a à suivre l'ordre de la raison. Car il se trouve toujours plus de monde pour commencer une chose que pour la finir. Donc il y a beaucoup plus de gens qui sont tentés de suivre la béatitude voluptueuse que de suivre la béatitude active, la béatitude contemplative, c'est évident. Alors, un acte isolé de péché, considéré par rapport à l'habitude de vertu, n'a pas de quoi détruire cette habitude si cet acte de péché reste unique. Parce qu'un seul acte ne peut pas faire perdre l'habitude de la vertu. Alors, saint Thomas va approfondir les choses. Donc on va retrouver beaucoup de ces choses-là dans la question 71. N'oubliez pas que ce cours a pour but de vous faire aimer saint Thomas. Rien ne vous empêche, après l'étude de ce cours, si vous avez la somme théologique que vous pouvez même télécharger sur Internet, vous pouvez la trouver à liberius.com ou liberius.net, je ne sais plus. Et là, vous pouvez télécharger la somme. Et ceux qui ont un petit peu le temps, par exemple, allez lire complètement la question numéro 71 de la Prima Secundae, la nature des vices et des péchés. Et vous verrez qu'il y a des choses splendides dans ces textes. Moi, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je vous donne un petit peu, je fais une synthèse du texte de saint Thomas et je vous donne les plus belles parties. Alors, si l'acte de péché, dit saint Thomas, est considéré par rapport à la cause des vertus, donc il est possible, dans ce cas-là, que les vertus soient détruites par un seul acte. Tout péché mortel, dit saint Thomas, s'oppose donc à la charité, qui est la racine de toutes les vertus en tant que vertus. C'est donc assez d'un seul acte de péché mortel qui exclut la charité pour exclure toutes les vertus infuses en tant que vertus. Donc un acte de péché grave va détruire la charité. Avec la charité, tout ce qui tourne autour de la charité est détruite. Or, les vertus infuses, c'est-à-dire les vertus directement données par Dieu dans notre âme, dépendent de la vertu de charité. Donc un péché grave, tout péché grave s'oppose à la charité, puisque le péché grave, par définition, détruit la charité. Tout péché grave qui détruit la charité va donc détruire toutes les vertus infuses de notre âme. C'est la gravité du péché mortel. Au contraire, un acte de péché ne va pas détruire les vertus acquises, elles restent là. Ce qui va détruire les vertus acquises, c'est le vice contre ces vertus acquises. Donc, cette phrase, vous l'avez en haut de la page 52. C'est donc assez d'un seul acte de péché mortel qui exclut la charité pour exclure toutes les vertus acquises, infuses, pardon, en tant que vertu. Je mets cette précision à cause de la foi et de l'espérance, dit saint Thomas, qui restent après le péché mortel, mais à l'état d'habitus informe, et ainsi ne sont plus des vertus. La foi, l'espérance et la charité. Prenez cet exemple des trois vertus théologales. La foi, pourquoi? L'espérance, pour prier. La charité, pour obéir à la loi de Dieu, en remplissant ses commandements. Bon. Lorsque on commet un péché mortel, quel qu'il soit, le péché mortel va faire disparaître complètement la charité, j'ai déjà expliqué. Avec la charité qui saute, ce sont toutes les vertus infuses qui vont sauter. La foi et l'espérance vont rester, parce que la foi et l'espérance sont ficelées à l'âme. Un péché mortel ne détruit pas la foi et l'espérance. Mais cette foi et cette espérance qui vivaient de la charité avant le péché mortel, c'est pour ça qu'on appelle ça une foi et une espérance formée, parce qu'elles avaient la forme de la charité sur le plan philosophique, donc la charité en quelque sorte donnait vie à cette foi et à cette espérance, eh bien ces vertus formées, à partir du moment où un péché mortel est commis, eh bien, ces vertus vont devenir informes. Informes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont plus la forme de la grâce sanctifiante. Elles sont encore vivantes, mais elles sont vivantes tout en étant à moitié mortes. Elles sont moribondes, en quelque sorte. Et saint Thomas l'explique là. La foi et l'espérance qui restent après le péché mortel, mais à l'état, dit-il, d'habitude informe, et ainsi ne sont plus vraiment des vertus au sens propre du terme. C'est un des restes de vertus. Il reste encore quelque chose. Heureusement d'ailleurs, parce que imaginez-vous ce qui se passerait s'il ne restait plus rien après un acte de péché mortel. Si quelqu'un commet un péché mortel et que la foi et l'espérance disparaissaient, il ne pourrait plus revenir vers le bon Dieu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir aller se confesser après un acte de péché mortel, qu'est-ce qu'il faut? J'ai commis le malheur de commettre un péché mortel. Est-ce que je peux aller me confesser par moi-même, par mes propres vertus naturelles, mes propres forces naturelles? Absolument pas. Pour pouvoir se confesser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord trouver un prêtre. Bon, un prêtre validement ordonné. Bon. Si vous avez trouvé un prêtre moderniste qui a été ordonné après 68, vraisemblablement il n'est même pas prêtre, vous perdez votre temps. Donc il faut trouver un prêtre, et il faut surtout regretter avoir une contrition surnaturelle de son péché, pas simplement naturelle, mais surnaturelle. Est-ce que l'homme est capable d'éliciter par ses propres forces un acte de contrition surnaturelle? Non. Un acte de contrition surnaturelle, c'est déjà une grâce du bon Dieu, donc c'est un don gratuit de Dieu. Et donc le bon Dieu... Le bon Dieu n'est pas obligé en tant que tel de nous donner à chaque fois un acte de contrition surnaturelle. C'est vrai que, heureusement, Dieu dans sa miséricorde ne refuse jamais ses grâces à qui il lui demande avec humilité. Bon, il faut bien comprendre ça. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Pour pouvoir aller me confesser après avoir perdu la grâce du bon Dieu, j'ai besoin de cette grâce de charité, de contrition surnaturelle. Et si je n'ai pas cette contrition surnaturelle, ma confession sera absolument invalide, tout simplement. Parce qu'elle est nécessaire à l'intégrité de la confession. Pour qu'une confession soit valide, il faut quoi? Il faut la contrition, il faut l'accusation, il faut la réparation. Eh bien, la contrition surnaturelle, c'est une partie de la contrition. C'est-à-dire le regret des péchés pour avoir un regret légitime du péché, un regret valide du péché, il faut que ce regret soit un regret surnaturel. Si c'est un regret purement naturel, ça vaut rien. Donc, le péché mortel, c'est la gravité du péché mortel. Le péché mortel, c'est une catastrophe dans une âme, précisément parce que le péché mortel va détruire tout l'édifice spirituel. Alors, il faut aussi distinguer, une distinction importante à faire, moi je la fais très souvent en confessionnal quand je confesse, de vérifier si la personne qui s'accuse d'un péché mortel s'accuse d'un péché mortel isolé, ce qu'on a très facilement pardonnable, on donne l'absolution, c'est terminé, ou d'un péché mortel qui est en fait multiplié, qui se commet depuis des mois et des mois, par exemple, avec des gens qui restent dans le péché mortel jusqu'au cou pendant des mois et des mois, qui ne vont pas se confesser, qu'ils auraient pu se confesser. Là, c'est déjà passé au niveau du vice. Comme un arbrisseau de 10 cm, ben vous tirez dessus, vous l'arrachez, mais si vous avez un petit arbre d'1,50 m dans votre jardin, vous voulez l'arracher, vous pouvez plus l'arracher, c'est trop tard parce que les racines sont trop profondes. C'est exactement la même chose avec le péché. Alors, le péché véniel, lui, au contraire, n'est pas en soi contraire à la charité. Pourquoi? Parce que le péché mortel ne va pas détruire la vertu de charité, contrairement au péché mortel. Donc, le péché véniel n'étant pas, lui, contraire à la charité, deuxième paragraphe de la page 52 dans le Polycopier, le péché véniel n'étant pas, lui, au contraire, contraire à la charité, ne la fait pas perdre, ni les autres vertus non plus. Quant aux vertus acquises, elles ne sont enlevées par un seul acte d'aucun péché. Un acte isolé de péché ne peut enlever une vertu acquise. Ce qui va enlever les vertus acquises, c'est l'acte du péché qui passe à l'état de vice. Une fois qu'on laisse les péchés contre telle vertu se développer dans l'âme de façon très profonde, on laisse les racines s'enfoncer dans l'âme. Au bout d'un certain temps, on n'a plus affaire à un péché isolé ou à des péchés isolés, on a affaire à un vice. Et là, un vice, malheureusement, peut rogner complètement les vertus acquises, et même les faire disparaître complètement. Donc le péché mortel, dit saint Thomas, ne peut coexister avec les vertus effuses. Il peut cependant coexister avec les vertus acquises. Le péché véniel peut coexister avec les vertus infuses et les vertus acquises. Un péché véniel, pardon, ne peut détruire les vertus acquises. Faire attention, c'est très important dans l'usage de la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie. Souvent, des jeunes viennent nous voir en disant « Monsieur l'abbé, j'ai commis des péchés, je ne peux pas communier. Est-ce que je peux communier quand même ou non ?» Mais attendez, est-ce que ce sont des péchés mortels ou des péchés véniels? Ce sont des péchés véniels. Alors, communiez. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces péchés véniels avec la Sainte Communion? Ils vont disparaître. Parce que la Sainte Communion, c'est comme un feu dévorant qui va nettoyer complètement toute l'âme. Donc, si l'âme est en état de péché véniel, la communion va enlever ces péchés véniels, au moins en partie. Alors, Saint Thomas donc explique très bien cela. Donc, je reprends un certain commentaire par le père Le Breton, donc sa petite somme théologique qui a été publiée aux éditions Saint-Rémy. Là, je suis dans le tome 2. Pour ceux qui ont le livre avec eux, c'est à la page 291 du tome 2 de la petite somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, l'usage des ecclésiastiques et des gens du monde, par l'abbé Frédéric Le Breton, qui a été publié en 1860. Donc, Saint Thomas explique bien que l'acte vicieux renferme plus de malice que l'habitude vicieuse. Encore une fois, attention, les habitudes, le vice en tant que tel, va être provoqué, va exister, commencer d'exister dans une âme à cause de la multiplication des actes vicieux. Mais une habitude qui est dans l'âme, il y a parfois des habitudes vicieuses qui sont dans certaines âmes, bon, eh bien, si la personne continue de lutter contre cette habitude, ce n'est pas un péché en tant que tel. Par contre, l'acte vicieux est lui-même pécamineux. Alors, saint Thomas va donc se poser la question, je donne le texte même de saint Thomas pour vous aider à bien comprendre. Il se pose la question, question prima secundae, question 71, article 4. Le péché peut-il exister avec la vertu? Voilà ce qu'il dit. C'est un résumé. Un acte ne détruisant ni ne produisant une habitude, un péché unique ne détruit pas la vertu acquise. Quoi qu'il en soit, si le péché tombe sur la cause même des vertus, il peut se faire qu'un seul en détruise plusieurs. Tel est le péché mortel à l'égard de toutes les vertus infuses. Un seul de ce genre, donc un seul péché mortel, détruisant la charité, anéantit par là même toutes ces vertus considérées comme vertus. Il parle ici des vertus infuse. Donc le péché mortel, c'est une espèce d'ouragan qui rentre dans l'âme et qui va détruire toutes les vertus infuses de l'âme. Et pas, attention, pas les vertus acquises. Je dis considéré comme vertu, texte que je vous ai déjà cité, parce que la foi et l'espérance, séparées de la charité, ne sont pas des vraies vertus. Le péché véniel, qui, lui, n'est pas contraire à la charité, ne la bannit pas du cœur des hommes, ne fait pas non plus périr les autres vertus infuses. De là cette conclusion, un seul péché, quel qu'il soit, ne détruit pas les vertus acquises. Un seul péché mortel, au contraire, détruit les vertus infuses. C'est la conclusion de saint Thomas, je répète. Un seul péché, par le péché mortel, ne détruit pas les vertus acquises, qui restent dans l'âme, mais un seul péché mortel détruit les vertus infuses, parce qu'il détruit la vertu de charité, qui soutient en quelque sorte les vertus infuses. Donc le péché véniel, lui, au contraire, peut exister avec toutes les vertus, soit acquises, soit infuses. Alors, vous voyez que saint Thomas d'Aquin met bien les choses en place. C'est pour ça qu'il faut avoir une telle horreur du péché mortel. Quand quelqu'un a le malheur de tomber dans le péché mortel, ça peut arriver à n'importe qui. Eh bien, parce que quelqu'un a le malheur de rester, de tomber dans le péché mortel, il ne faut surtout pas qu'il y reste. Parce que s'il y reste, le péché mortel risque de se transformer, d'être multiplié, d'être se transformer de simple péché d'action en vice. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à déraciner. On peut relativement facilement, avec la grâce du bon Dieu, déraciner une action pécamineuse. Pour déraciner un vice déjà fortement enraciné dans une âme, c'est très compliqué, très difficile, et même dans certains cas, pratiquement impossible. Alors, saint Thomas, donc, a expliqué ces choses-là, donc il faut bien se rappeler ça, en quelque sorte, il faut cadrer cette partie sur le. Avant d'attaquer les détails des différents articles de saint Thomas, donc il faut bien se rappeler les principes. Je rappelle ces principes qu'on vient d'expliquer, j'espère complètement. Un seul péché, quel qu'il soit, péché mortel, ne détruit pas les vertus acquises. Pardon. Deuxième principe, un seul péché mortel détruit toutes les vertus infuses. Troisième principe, le péché véniel ne détruit pas les vertus, ni acquises, ni infuses. Donc le péché véniel peut exister avec toutes les vertus. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le péché ne peut pas exister sans acte. Il peut y avoir des péchés qui existent dans une âme sans une action. Péché d'omission, par exemple. Péché d'omission, il peut y avoir des péchés d'omission, même en matière grave. Non-assistance à personne en danger, par exemple, c'est un péché d'omission. Eh bien, il n'y a pas d'acte, mais justement, il n'y a pas d'acte, mais il n'y a pas d'acte, acte aurait dû être là. Donc, il y a péché. Donc, faire ce qu'on ne doit pas, ne pas faire ce que l'on doit, voilà le péché. Donc, le péché, c'est la conclusion de, cette fois-ci, de saint Augustin, c'est une définition de saint Augustin, c'est une parole, une action, un désir contre la loi éternelle. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a, dans la volonté humaine, deux règles, deux mesures, l'une prochaine, et de même nature qu'elle, la raison humaine, et l'autre supérieure à elle, qui est la loi éternelle, qui est comme la raison de Dieu même. Donc, au-dessus de la loi naturelle, il y a la loi divine. Et la loi naturelle, on peut dire d'ailleurs, la loi naturelle n'est que l'expression de la loi éternelle dans la nature de l'homme. Donc, il y a donc deux choses que l'homme doit suivre. D'abord la raison humaine, et puis au-dessus cette raison humaine, la raison éternelle. Alors, avançons un petit peu dans ce texte, page 52 dans le polycopier. Donc, saint Thomas va donner d'autres généralités sur les péchés. Toute la page 52 du polycopier est consacrée à cela, à partir des textes de saint Thomas. Et à partir de la page 53, on rentrera plus dans les détails avec l'examen plus approfondi de la question 73, qui est une des plus belles questions de la Somme. Donc, le péché est donc une parole, un acte, un désir contraire à la loi éternelle. Bon. Péché n'est donc rien, pas autre chose que de négliger les réalités éternelles pour s'attacher aux réalités temporelles. Donc, le péché, si vous voulez, c'est comme saint Thomas, c'est saint Curé d'Ars qui disait que le péché, ça ressemble à une, la trace de la bave d'une chenille qui passe sur une belle feuille de salade. Vous avez mis sur dans votre assiette pour manger, pour inviter, pour donner à des invités une magnifique feuille de salade. Et puis, il y a une limace qui passait à travers sur la salade, feuille de salade, qui va laisser derrière elle la trace de sa bave. Eh bien, la beauté de la feuille de salade va complètement disparaître. Hein. Donc, il faut, ça c'est Saint-Denis qui dit ça, Saint-Denis l'Aréopagite, il faut plus de choses pour le bien que pour le mal, puisque le bien est produit par une cause parfaite, le mal par n'importe quel défaut. Donc, pour que quelque chose soit bon, il faut que la chose soit totalement bonne. Dès qu'on introduit quelque chose de mauvais dans la chose n'est plus bonne. L'exemple classique que je donne tout le temps, toujours le même, je l'ai déjà donné plusieurs fois, je répète pour ceux qui n'ont pas tout entendu, n'ont pas tout compris. Imaginez deux tartes aux pommes devant vous, sur la table, une tarte aux pommes qui est bonne, sans aucune chose mauvaise dans cette tarte, elle est bonne à 100%. Elle est bonne, on peut la manger en toute tranquillité. Mettez une goutte d'arsenic dans la deuxième tarte, vous ne pouvez pas dire, mais cette tarte aux pommes est mauvaise à 5% seulement, parce qu'il y a une partie, effectivement, sur 5% de la surface de la tarte qui est mauvaise, il y a de l'arsenic. Si vous mangez, si vous touchez à cette partie, vous mourrez. Mais il reste encore 95% de bon dans la tarte. Et donc, puisqu'il y a encore 95% de bon dans cette tarte, donc je peux continuer de manger la tarte, puisqu'il y a surtout du bon. Non. À partir du moment où il y a une goutte d'arsenic dans cette tarte aux pommes, on ne peut plus dire que cette tarte aux pommes est bonne à 95%. On doit dire cette tarte aux pommes est mauvaise. Cette tarte aux pommes est mortifère. Cette tarte aux pommes doit être jetée à la poubelle parce que justement, elle a en elle une goutte de poison. Quand on vient de pas me dire, ah, monsieur l'abbé, en jetant cette tarte à la poubelle, vous jetez 95% de la tarte qui est bonne. Oui. Mais ce n'est plus une bonne tarte, c'est une tarte qui est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle a été contaminée par le péché? Alors, le péché, si vous voulez, va détruire, d'une certaine façon, va pousser à la destruction de la loi naturelle en nous. On ne peut pas la détruire complètement, mais la loi naturelle va être par le péché, surtout la répétition des péchés. La loi naturelle va être comme enveloppée de nuages. On ne voit plus très bien ce qu'on doit faire. Hein. Et Saint Thomas explique, c'est une phrase magnifique, qui est le troisième paragraphe, quatrième paragraphe de la page 52 d'un Polycopier. Péché n'est autre chose que de négliger les réalités éternelles pour s'attacher aux réalités temporelles. Hein. En gros, on peut simplifier en disant que pécher mortellement, c'est inverser la fin des moyens. Inversement la fin des moyens. Saint Thomas le dit d'une autre façon, toute la perversité humaine consiste donc à se servir de ce dont on devrait jouir et à jouir de ce dont on devrait se servir. Donc, vous voyez, c'est une inversion des choses. C'est pour ça que je vous ai dit que le péché détruit en nous l'intégrité, péché grave. L'intégrité, je vous l'ai déjà dit, c'est l'ordre qui règne dans l'âme. Donc, le péché mortel introduit dans l'âme un désordre moral. Pourquoi, dit saint Thomas, donc, parce que je vais commencer à me servir de ce dont je devrais jouir et à jouir de ce dont je devrais me servir. Hein. Il ne faut pas inverser la fin des moyens. Les moyens ne sont que des chemins qui conduisent à la fin. Hein. En inversant la fin des moyens, je détruis toute moralité en moi. Pourquoi? Parce que la volonté humaine a une règle qu'elle doit suivre. D'abord, j'ai déjà expliqué, une règle toute proche. Une règle homogène, qui est la raison humaine elle-même, et puis une règle suprême, qui est la loi éternelle, la raison de Dieu en quelque sorte. Donc il faut commencer par suivre la loi de la raison humaine, et ensuite, évidemment, utiliser aussi la raison éternelle. Hein, mais il n'est pas possible que la raison éternelle aille contre la raison humaine. D'accord? Donc la raison humaine va nous indiquer que telle chose est un péché, que telle chose suit la nature et donc n'est pas péché. La raison supérieure, c'est-à-dire la raison divine, ne va faire que confirmer ce que la raison humaine dit déjà. Alors, donc, vous avez encore d'autres détails ici expliqués, page 52, avec un texte de Saint-Augustin, donc qui a mis dans la définition du péché deux parties. Donc, une partie Rappelez-vous la définition de saint Augustin, là, qui est analysée par saint Thomas d'Aquin. Définition de saint Augustin, le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Donc, voilà ce que dit saint Augustin. Voilà ce qu'explique saint Thomas sur ce texte de saint Augustin. Donc le bon Dieu a mis, donc saint Augustin a mis donc dans la définition pardon, du péché deux parties. L'une concerne la substance de l'acte humain, c'est pour ainsi dire le matériel du péché. Et donc il y a les mots dans la définition de saint Augustin d'action, de parole ou de désir. Le péché, c'est une parole, une action, un acte ou un désir contraire à la vie éternelle. Mais l'autre partie se rapporte ce qu'il y a de mal dans l'acte, et c'est pour ainsi dire le formel du péché qui tient dans les mots contraire à la voie éternelle, à la loi éternelle. Donc deux parties, parole, acte ou désir, c'est le matériel du péché, contraire à la loi éternelle, c'est le formel du péché. Donc deux éléments concourent à la raison du péché, l'acte volontaire et le désordre qui lui vient de son éloignement de la loi divine. Je viens d'expliquer ça, ce que j'appelle la destruction du don préternaturel d'intégrité. L'ordre, c'est l'intégrité. Le désordre, c'est la destruction de l'intégrité. Donc deux éléments concourent à la raison du péché, l'acte volontaire et le désordre qui lui viennent sont l'éloignement de la loi divine. Donc quand on s'éloigne du bon Dieu, quand on perd le bon Dieu par le péché mortel, donc on tombe immédiatement dans un désordre. Le péché n'est pas une pure privation, mais un acte privé de l'ordre qu'il devrait avoir. Non pas de l'ordre que je veux avoir dans mon âme, mais l'ordre que Dieu veut voir dans mon âme. Et ça, c'est une phrase aussi capitale. Le péché donc n'est pas une pure privation, mais un acte privé de l'ordre qu'il devait avoir. D'accord ? En fonction de la position sociale de la personne, en fonction de toute une série de circonstances, donc le péché, je veux dire la personne, a un certain nombre de choses à faire. Ben, le péché mortel va introduire un désordre. Donc, il va priver donc l'âme en question de l'ordre qu'il devait avoir et que le bon Dieu voulait trouver dans cette âme. Donc, c'est un acte privé de l'ordre qu'il devrait avoir. Tout péché consiste dans l'appétit d'un bien périssable que l'on désire de façon désordonnée, dans la possession duquel, par conséquent, on s'en délecte d'une manière déréglée. Donc la recherche effrénée du plaisir va détruire en quelque sorte l'ordre qui était dans l'âme du baptisé. Le baptême va remettre de l'ordre dans l'âme. Imaginez une pièce qui a été volée, qui a été fouillée par des bandits, des voleurs. Les livres sont partout, tout a été renversé sur le tapis au centre de la pièce. Eh bien, par la vertu, on remet de l'ordre là-dedans. Au contraire, par le péché, on s'introduit dans la pièce qui est l'âme, et puis on casse tout là-dedans, on détruit tout, on met tout par terre. Donc tout péché consiste dans l'âme, dans l'appétit d'un bien périssable, que l'on désire de façon désordonnée, et dans la possession duquel, par conséquent, se délègue d'une manière déréglée. Oui, trois choses importantes. Bien périssable, désiré de façon désordonnée, deuxième chose, troisième chose, et dans la possession duquel on se délecte d'une manière déréglée. Donc il n'y a pas simplement une délectation, mais une délectation déréglée. Il y a des délectations qui sont des délectations réglées. Quand elles sont dans le domaine de la raison, elles sont réglées. Apprécier un bon plat, c'est une délectation qui est selon l'ordre. Donc on peut accepter ça. D'accord? Alors, saint Thomas va ensuite distinguer les péchés. C'est la question 72 de la Prima Secondae, donc une question importante avec 9 articles. Et saint Thomas va nous parler cette fois-ci de la distinction des péchés. Donc là, c'est en bas de la page 52. Et, ensuite, j'attaquerai la question numéro 73, qui est plus particulière. D'accord ? Là, ce sont les principes généraux. Bon. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. La première question qui se pose, les péchés se distinguent-ils spécifiquement d'après les objets auxquels ils se rapportent ? Eh bien, saint Thomas d'Aquin donc, va répondre affirmativement en précisant que les péchés vont également se distinguer d'après les vertus auxquelles ils sont contraires. Comme les différentes vertus qui peuvent être affectées par certains péchés, eh bien, il y a donc différentes catastrophes qui vont être introduites dans l'âme à cause de ces péchés. Donc, il y a une note ici que je vais vous lire, qui est une note qui est dans le livre du Père Le Breton, qui va expliquer ça avec une longue phrase, un paragraphe de Mgr Gousset. Voilà ce qu'il dit. La distinction spécifique des péchés se tire de la nature de l'acte moralement mauvais. L'hérésie, par exemple, le désespoir, le blasphème, la calomnie, le mensonge sont évidemment des péchés d'espèces différentes. On reconnaît que les péchés diffèrent les uns des autres quant à l'espèce. Premièrement, quand ils sont opposés à différentes vertus. Par exemple, l'hérésie est la vertu de foi, le désespoir est la vertu d'espérance, le blasphème est la vertu de religion. Secondement, quand ils sont opposés à différentes fonctions d'une même vertu. À ce titre, le vol et l'homicide, quoique opposés à une même vertu, à la vertu de justice, sont néanmoins des péchés d'une nature différente. Il en est de même de l'idolâtrie, la superstition, du blasphème, du sacrilège, qui sont autant de péchés spécifiquement distincts, étant contraires à différents offices de la vertu de religion. Troisièmement, quand ils sont opposés à une même vertu, mais en sens contraire. C'est ainsi que le désespoir et la présomption, l'avarice et la prodigalité forment différentes espèces de péchés. Et quatrièmement, les péchés sont encore distincts quant à l'espèce, quand ils sont opposés à une même vertu d'une manière différente, quoique non contraire. Vous voyez, donc il y a différentes portes d'entrée du péché dans notre âme. Il n'y en a pas qu'une, malheureusement. Et pour pouvoir empêcher le démon d'entrer, il ne suffit pas de fermer la porte principale de la maison, il faut fermer toutes les portes, toutes les fenêtres. Donc après une bonne confession, on peut vérifier que le démon ne revient pas avec sept démons plus pires que lui. Il faut bien vérifier que toutes les portes, toutes les fenêtres de la maison, toutes les lucarnes de la maison, tout soit hermétiquement fermé pour empêcher le démon de revenir. Alors, d'une manière spéciale, donc il va donner certains exemples. Dans le péché de fornication, par exemple, l'âme devient l'esclave du corps, à ce point qu'elle n'est plus capable, sur le moment, de songer à rien d'autre. Donc, au lieu de regarder vers le ciel, elle regarde vers le bas, vers la boue du monde moderne. Par les vertus théologales, foi, espérance, charité, l'homme s'ordonne vers le bon Dieu. Par la force et la tempérance, il s'ordonne vers lui-même. Par la justice, il s'ordonne vers le prochain. C'est pourquoi, dit saint Thomas, deux paragraphes avant la fin de la page 52 sur le polycopier. C'est pourquoi, lorsqu'une âme est déréglée par le péché, jusqu'à être détournée de sa fin ultime, c'est-à-dire de Dieu, à qui nous sommes unis par la charité, alors la faute est mortelle. La faute mortelle, ça veut dire qu'au lieu de viser la fin pour laquelle nous sommes créés, Dieu, eh bien on fait demi-tour et on vise une autre fin, à savoir notre plaisir personnel. C'est l'inversion de la fin des moyens. Bon. Non, je répète cette phrase qui est très importante. Lorsqu'une âme est déréglée par le péché jusqu'à être détournée de sa fin ultime, c'est-à-dire de Dieu, à qui nous sommes unis par la charité, alors la faute est mortelle. Au contraire, quand le désordre se produit au-deçà de cette séparation d'avec Dieu, la faute est vénielle. C'est-à-dire que la faute est vénielle, dans le sens qu'on garde le cap, on continue de regarder vers le bon Dieu, mais au lieu de choisir le chemin le plus court pour aller vers lui, on va choisir un petit chemin de traverse qui nous mène toujours vers le bon Dieu, mais pas de façon si directe que si on avait gardé la bonne route. Vous voyez ? Donc, le péché mortel, lui, change complètement le cap. Je ne regarde plus vers le bon Dieu, je ne vise plus le bon Dieu, je vise moi-même ou le monde ou autre chose. Je fais demi-tour. Péché véniel, je continue de viser le bon Dieu, je continue d'aimer le bon Dieu, mais malheureusement, je me laisse aller à certaines choses qui ne plaisent pas au bon Dieu, mais sans couper l'homme de la fin pour laquelle il a été créé. Celui qui se trompe sur des principes ne peut être amené à la vérité. Péché mortel. Mais celui qui se trompe en sauvegardant les principes peut être amené par ces principes mêmes. Péché véniel. Donc, il conclut en bas de la page 52 sur le polycopier. En matière d'action, celui qui en péchant se détourne de la fin ultime, par la nature de son péché, fait une chute irréparable. Et c'est pourquoi l'on dit qu'il pêche mortellement, qu'il aura expié mortellement, éternellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chute est irréparable tant que je ne me suis pas confessé. Attention, j'ai comme un péché mortel. Si je meurs dans cet état de péché mortel, la chute est irréparable. Parce que je suis sorti du temps. pouvoir changer de vie, pour pouvoir se confesser, il faut du temps. Il faut la grâce du bon Dieu, et puis il faut l'usage de notre liberté. Une fois qu'on a passé la barrière du temps, on est passé dans l'absence de temps. L'éternité, c'est une absence de temps. Il n'y a plus de temps dans l'éternité. Donc il n'y a plus de grâce du bon Dieu, il n'y a plus d'usage de notre liberté. Et donc on ne peut plus changer. Si quelqu'un meurt d'un péché mortel, il peut changer avant de mourir. Une fois qu'il est mort, c'est fini, c'est terminé, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais rester dans le péché mortel. Parce que je ne sais pas à quelle heure le bon Dieu viendra me chercher. Il va venir comme un voleur, c'est possible. Il faut prendre mon âme à l'heure peut-être où je ne m'y attends pas. Donc, en matière d'action, celui qui en péchant, se détourne de la fin ultime, par la nature de son péché, fait une chute irréparable. C'est pourquoi l'on dit qu'il pêche mortellement, qu'il aura expié mortellement, éternellement. Au contraire, celui qui pêche au-dessus de la séparation d'avec Dieu est dans un désordre que la nature même du péché rend réparable parce que le principe est sauf. Aussi assure-t-on que celui-ci pêche véniellement. Ce qui revient à dire qu'il n'est pas coupable au point de mériter une peine interminable. Donc à chaque fois qu'il y a dans l'intention un motif différent de mal faire, il y a une espèce différente de péché. Et ça, c'est une chose très importante, donc de comprendre la gravité du péché. C'est une chose qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à, beaucoup, beaucoup de mal à réaliser. Donc, saint Thomas va, dans la question 72, article 4, il va donc expliquer encore un peu plus. Les péchés se distinguent-ils en péché contre Dieu, contre soi-même et contre le prochain? Bien, il répond par la positive, en disant nous sommes assujettis à trois sortes d'ordre, l'ordre rationnel, l'ordre de la raison, l'ordre divin et l'ordre social. L'ordre divin contient l'ordre rationnel, et le dépasse en ce qui est de la foi. D'accord? Donc, l'ordre divin, c'est ce qui est au-dessus. Donc la raison divine contient évidemment la raison humaine, hein, mais la dépasse en ce qui est de la foi, va l'élever vers le bon Dieu, hein. L'ordre de la raison contient l'ordre social et le dépasse, hein. Donc en haut il y a l'ordre divin, puis l'ordre de la raison, puis l'ordre social, hein. Donc la conclusion de saint Thomas que j'ai déjà citée, les vertus théologales, foi, espérance et sincérité nous élèvent à Dieu, la tempérance et la force règlent nos devoirs envers nous-mêmes, la justice préside à nos rapports avec le prochain. Donc d'abord Dieu, puis nous-mêmes, puis le prochain. Donc la vraie différence entre le péché mortel et le péché véniel va donc provenir de la diversité du désordre qui détermine la nature de l'un et de l'autre. Toute faute qui sépare notre âme de sa fin dernière, de Dieu, auquel nous sommes unis par la charité, reçoit le nom de péché mortel. Pour faire entendre autant que le comporte sa nature, est irréparable et mérite une peine éternelle. Cependant, en soi, elle est irréparable si on quitte le monde à ce moment-là. C'est-à-dire, si on meurt à tête péché mental, la faute est irréparable. Mais si on est ici sur terre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, donc il y a encore les possibilités d'utiliser les grâces du bon Dieu, d'aller se confesser, retrouver l'amitié du bon Dieu. Donc, je répète cette phrase de saint Thomas. Toute faute qui sépare notre âme de sa fin dernière de Dieu, auquel nous sommes unis par la charité, reçoit le nom de péché mortel, pour faire entendre qu'autant qu'elle le comporte sa nature, elle est irréparable et mérite une peine éternelle. Toute faute qui ne va pas jusqu'à nous séparer de Dieu porte le nom de péché véniel, parce que, la principe étant sauvée, elle est réparable de sa nature. Premier désastre est figuré par la mort corporelle, donc la mort corporelle correspond à la mort éternelle, le second par la maladie. Donc, même si je suis malade, on peut ressusciter d'entre les morts plus facilement, c'est ce qu'il veut dire. Donc, la mort corporelle, c'est fini, terminé. Sans la confession, un acte de contrition parfaite, qui dépend de la volonté du bon Dieu, eh bien, je ne peux pas réparer. Au contraire, dans la deuxième séparation avec Dieu, qui est une séparation secondaire et pas essentielle, on garde le bon chemin, et bien à ce moment-là, on peut réparer cette maladie qui est le péché véniel par exemple, un simple acte de pénitence. Dans le premier cas, le cas du péché mortel, le principe vital est détruit, les forces de la nature ne sauraient le réparer. Bon. Mais dans le péché véniel, le principe vital étant sauvé, le désordre peut être réparé par ce principe même. C'est-à-dire, le péché mortel introduit un désordre, une espèce d'ouragan qui casse tout, le péché véniel ne casse pas tout, garde l'axe vers le bon Dieu. Alors saint Thomas va expliquer, je vais terminer par cela, saint Thomas va expliquer justement que Et les péchés se divisent en péché du cœur, péché de la bouche et péché de l'œuvre. C'est l'article 7 de la question numéro 72, la primaire secondée. On pêche par pensée, avec le cœur, par parole, avec la bouche, et par action, par nos œuvres. D'accord? Donc le premier degré est dans le cœur, le second dans la parole, le troisième dans l'action qui le consomme. Donc, vous voyez comme il est important de ne pas laisser le péché entrer dans l'âme, péché mortel. Une fois que le péché mortel est entré dans l'âme, c'est pas impossible, mais très difficile de le mettre dehors. En tout cas, on ne peut pratiquement pas le mettre dehors sans une confession. À moins que le bon Dieu, dans sa miséricorde, ne concède à cette âme la grâce d'un acte de contrition parfaite. Donc, c'est ces parties qui sont très intéressantes, mais il faut l'avouer un petit peu difficiles sur certaines choses au moins. Donc, il importe que vous travailliez par vous-même. Alors, je vous conseille beaucoup, même si vous ne pouvez pas avoir accès à la somme théologique de saint Thomas Aquin, au moins de relire très lentement et travailler papier crayon main. Donc la page 51, les pages 51 à 52 du polycopier qui est sur le site. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous de suivre les autres cours. Donc la semaine prochaine, donc maintenant je ne mettrai plus la conférence sur saint Thomas de façon toujours au même jour. Je vais essayer toujours d'en mettre une par semaine sur le site, donc vous pourrez y avoir accès, une par semaine sur le site, mais elle ne sera pas forcément mise le même jour. Quand j'ai un petit peu de temps, quand j'ai un peu de temps, j'enregistre une conférence et je la mets sur Internet, sur le site Dame Marie. Donc, la prochaine conférence, donc la semaine qui suivra, donc je commencerai à la page 53, c'est-à-dire la question 53 de la somme théologique de saint Thomas. Pardon, je me trompe. La question la page 53, question 73 de la somme théologique de saint Thomas, prima secundae, question 73 du rapport des péchés et de leur gravité. Donc là, c'est des choses très pratiques, extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Nous allons terminer par une prière, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai oublié de commencer la conférence par l'invocation Saint-Esprit. Veuillez m'excuser. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.